Les grandes gueules sur RMC avec Iscox. Is quoi ? Iscox. Is qui ? Iscox. L'assureur des TPE et des indépendants.
RMC, les grandes gueules.
20 000 euros, ça pourrait être utile pour boucler les fins de mois et pendant plusieurs mois. Parce qu'aujourd'hui, les Français tirent la langue à tel point, effectivement, qu'ils prennent des crédits à la consommation. Non pas forcément pour acheter des voitures, mais simplement pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du mois. Écoutez Maëlle Barnier, les porte-parole de MeilleurTaux.com.
Globalement, on a en face de nous donc des emprunteurs qui ont autour de 40 ans, qui ont des revenus, et c'est là que c'est très important, qui sont pour un couple à plus de 4 000 euros et à près de 2 500 euros net. C'est ceux qu'on qualifiait de riches il y a quelques années, et on constate qu'effectivement, cette catégorie de Français a aussi du mal à boucler ses fins de mois. Et donc, vous savez, quand vous avez tout qui augmente, l'inflation, que vous devez faire face à des dépenses qui sont imprévues, vous tournez vers le crédit conso pour pallier en fait le manque à gagner.
Voilà, les crédits à la consommation pour pallier le manque à gagner.
Oui, ça progresse, 48% en 2022, 56% en 2023, donc c'est plus d'un Français sur deux qui fait un crédit, non pas parce que tu veux faire des travaux chez toi, tu veux t'offrir une belle voiture, non, simplement pour finir le mois, pour payer tes impôts, tes factures, énergie, loyer, la consommation alimentaire, tout a augmenté. Même si on nous explique que l'inflation est en train de reculer, elle a quand même atteint en 2023 4,9% selon l'INSEE. Ça dit quelque chose de la société française, c'est les Français, de la classe moyenne supérieure, jusqu'à la classe moyenne supérieure, qui est en difficulté. Donc il y a un décalage, pardon, mais je trouve, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, entre le discours politique qui nous explique que tout va bien et puis ce que vivent les Français qui se serrent la ceinture de plus en plus.
Moi je me souviens que Jean-Louis Borloo, à l'époque, avait proposé une loi, je crois qu'elle avait été votée, sur l'effacement des dettes des familles les plus pauvres lorsqu'elles étaient surendettées. Donc à l'époque, il s'agissait de ceux qui étaient en surendettement, crédit à la consommation, mais dans les classes très pauvres. Donc là, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit plutôt des classes moyennes, cadres supérieurs, qui eux aussi empruntent pour boucler leur fin de mois. Ça veut dire qu'en 20 ans, on a glissé. Aujourd'hui,
tout le monde s'est appauvri.
Voilà, tout le monde s'est appauvri. Maintenant, il y a deux... Enfin, je vais faire hurler, mais il y a deux réponses qu'on peut apporter à ça. Il y en a une, il y a des leviers sur lesquels on n'a pas de possibilité, nous, les citoyens. On ne peut pas changer les prix, on ne peut pas agir sur l'inflation, et donc on est obligé de payer les choses au prix où elles nous sont proposées. Mais il y a un autre phénomène intéressant qui commence un peu à pointer son nez dans la société, même s'il n'est pas récent, c'est la déconsommation. C'est la possibilité pour chaque Français de se dire, tout ce qui n'est pas vraiment utile, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas indispensable à ma vie, je vais cesser de consommer. Et c'est vrai que ça ne va pas aider la consommation, mais c'est le seul levier que les gens ont. Mais oui, mais tu prends l'industrie de la vie. Ce n'est
pas les charges les plus importantes.
Non, je t'explique. Tu prends des gens qui gagnent 3, 4, 5 000 euros par mois. Ils sont pas à la rue.
Là, c'est beaucoup.
Tu n'as pas besoin de 50 paires de baskets, 25 chemises, 40...
C'est pas ça qu'il te fout dedans.
Les gens dépensent entre 100 et 300 euros par mois de vêtements. À partir du moment où tu commences à te dire que toi, personnellement, sans te dire que tu vas changer de vie, sans dire que tu vas mal vivre, sans dire que tu vas moins bien vivre, tu peux déjà commencer par supprimer un certain nombre de choses. Et ça, c'est très efficace puisque c'est toi qui as la main dessus. Ensuite, tu ne vas rien pouvoir faire si on te dit que l'essence, elle est à 2 euros. Tu ne peux rien faire. Donc, face à des phénomènes où tu n'as pas le choix, où on te dit le loyer c'est tant, le gaz c'est tant, l'électricité c'est tant, et ben le premier levier que toi tu as, c'est de modifier la façon dont tu vis sans que ça change vraiment ta vie, et c'est une réalité.
Mais tu vois,
moi je l'ai testé,
l'exemple
c'est super
que tu
vrai.
Donnes.
Mais si.
Non mais moi je m'interroge sur
ah bon, parce que quand t'as 40 chemises, t'as appauvri.
Personne n'a 40 chemises.
Non, le rapport aux gens dans la consommation.
Attention,
pas
en même temps.
Je suis pas d'accord que tout le monde a fait ton chemin, Zora. Je suis pas
et
d'accord.
Pourtant...
Parce que depuis ce matin, j'écoute ouané des mecs à la radio qui t'expliquent qu'ils peuvent plus manger de viande parce que ça coûte trop cher. Mais en même temps, ils se sont pas posé la question la semaine dernière pour monter dans la bagnole pour aller en week-end ou pour partir en train, quoi. Hein. Moi, j'ai bougé un peu le week-end dernier. C'était blindé partout, quoi.
Voilà.
Donc quant au choix de consommation, je trouve que il y a pas grand monde qui se pose les vraies questions.
Voilà, merci Didier.
Voilà.
Je pense pense qu'on peut déjà personnellement.
Donc en fait, rester chez soi, quoi, en fait.
Mais non, oh, c'est pas ça que je te dis, bah non, Olivier.
La vie que vous nous proposez, non, c'est rester voilà. chez soi.
Non, non, non,
c'est
moi, je
avec des chemises
rarement. Mais tu les fais tes choix.
Mais oui, elle est bonne.
Tu fais comme tu veux, mon grand. Si tu veux passer par le crédit à la consommation,
non, mais il les fait déjà ses choix. Il les fait déjà lui-même.
Les gens, tu sais, la semaine dernière, ils sont partis dans leur famille. Je veux dire, essentiellement. Mais si, regarde les chiffres. Majoritairement, les Français sont partis, effectivement.
Moi, j'ai écouté des hôteliers qui t'expliquaient qu'ils étaient pleins.
Non, pas tous.
C'est la première fois cette saison-là qu'ils étaient pleins.
Est-ce que oui, quelqu'un...
C'est toujours les mêmes qui vont dans les hôtels, Didier, tu te trompes.
Non, mais peut-être.
Ce sont toujours les mêmes Français qui
voyagent. Alors là, c'est un peu facile de dire tu te trompes comme ça au doigt mouillé, Olivier.
Regarde
quoi.
Les chiffres.
Si, si, pas les chiffres.
Didier, il y a un thermomètre.
Attends, Chamine, c'est toujours les mêmes qui partent en vacances, ce sont toujours les mêmes qui partent au ski, ce sont toujours les mêmes qui prennent des locations dans les hôtels. Et les Français, majoritairement, ils vont en vacances dans leur famille, dans des points de chute, des maisons, etc.
Moi, je voulais ouvrir la grande boîte loisirs. Parce que la grande boîte loisirs, celle-là, on ne peut pas la toucher, elle est sacrée. Par contre, la boîte bouffe, celle-là, on la serre au maximum.
C'est idiot ce que tu dis, parce que quand tu vas dans un restaurant, tu manges, c'est la boîte bouffe aussi.
Non, mais si le deuxième main est l'occasion à autant de succès, il y a une raison. Il y a une raison. Donc la déconsommation, elle a commencé.
C'est la définition de l'appauvrissement, je suis désolé. Quand tu changes ta vie, parce que pour changer ta vie, tu commences à te restreindre, à acheter moins, à consommer moins, à passer à la deuxième main, etc. C'est la définition de l'appauvrissement.
Ah bon ?
Mais oui, sans critiquer les gens, sans critiquer ceux qui achètent, comme tu dis, 10 chemises, 15 paires de pompes, etc. Ils ont une façon de vivre qui est liée, pour certains, à leurs revenus, d'autres qui ont les mêmes revenus, qui consomment moins, etc. Dès l'instant où tu vois qu'une majorité de ces gens-là, de la classe dite « moyenne », commence à restreindre ses achats, c'est que cette classe moyenne s'appauvrit. Et elle s'appauvrit parce qu'elle ne peut pas faire face à l'inflation, elle ne peut pas faire face à l'augmentation des coûts, que ce soit alimentaire, que ce soit de confection, etc. Et donc, elle modifie sa vie.
Et ça
prouve que le pays s'appauvrit. Parce qu'effectivement, ça fait 30 ans que les hommes politiques, de n'importe quel bord qu'ils soient, construisent leur campagne électorale sur les classes moyennes.
Oui.
Les construisent en disant on va tout faire pour les classes moyennes. Et 30 ans que l'on voit les classes moyennes s'appauvrir sous tous les régimes. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de très riches et de plus en plus de très pauvres. Et une couche du milieu qui s'amincit de plus en plus.
L'inverse de ce qui s'est passé dans les pays
en voie de développement. Et c'est gravissime, parce que c'est la classe moyenne qui emploie. C'est la classe moyenne qui crée les PME. Oui. C'est la classe moyenne qui fait les professions libérales, l'artisanat, l'agriculture, etc. C'est la classe moyenne. Et si tu approuves cette classe, tu tues ton pays. Et c'est là où on est en train d'aller. Donc on ferait bien de se réveiller et de se dire que ça, c'est une alerte forte.
Tout à fait.
Mais en même temps, qu'est-ce que les politiques, ils y peuvent ?
C'est eux qui ont les leviers principaux.
Non, mais dis-moi,
L'énergie, c'est les décisions politiques.
La fiscalité aussi.
La fiscalité sur
les charges sur...
On est d'accord sur la fiscalité, mais...
Le manque de construction immobilière.
Non, mais c'est facile à dire. Mets-toi en situation manette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule façon pour revenir là-dessus, c'est d'en redonner moins. Si tu veux en collecter moins de l'impôt, il faut en redonner moins, quoi. Quelle politique va avoir les coronesses
Je te donne deux exemples.
Moi, le système social français, Didier, il est plus tenable, on le casse.
Didier,
quoi.
Je te donne deux exemples. L'énergie. La France était autosuffisante sur le plan de l'électricité. On est allé bousiller nos centrales. Il nous a fallu 2 ans à 3 ans pour arriver à les remettre d'aplomb. Le prix de l'énergie a explosé.
Ça
a coulé les Français. Deuxième chose, on est en train de parler de la semaine de 4 jours, quoi. Ça va déboucher sur des emplois de fonctionnaires qui vont augmenter. On va payer encore plus d'impôts et ça va couler les Français. C'est des choix politiques.
Et sur le logement, je suis désolé, tu peux faire des politiques incitatives. On sait bien que si les loyers explosent, c'est parce qu'on n'a pas non plus construit assez de logements neufs que Emmanuel Macron, quand même, depuis des années, sur ce sujet-là, n'a pas fait grand-chose. Tous les professionnels le disent. Et la crise du logement, elle est en partie due, justement, à ce manque de politiques incitatives, d'encouragement à construire, de réduire les normes.
Et là, le sujet, c'est quand même la classe moyenne qui souffre. Aujourd'hui, pour redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne, il faut jouer sur les impôts indirects. Parce qu'on n'est pas sur les impôts directs. Et on ne peut pas dire que les impôts directs, ils ont énormément bougé. C'est les impôts indirects. Ça veut dire baisser les taxes sur le carburant, ça veut dire toutes ces choses-là. Enfin, ce volet-là. Et ça, concrètement, il faut que dans le pendant, soit tu réformes l'État durablement. Et ça, moi, ça fait des années qu'on le dit sur ce plateau, mais personne ne l'a fait. Tu définis 5 grandes missions régaliennes de la fonction publique d'État, que sont l'éducation, la santé, la sécurité au sens large avec la justice dedans, le reste, tu vires tout le monde dans le privé, quoi. Et si tu fais pas ça et si tu redonnes pas un peu moins de prestations sociales et globalement la protection sociale, oui, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à baisser les dépenses de l'État.
Didier, aujourd'hui, quand tu calcules les revenus des gens, en fait, si tu veux, il y a les gens qui gagnent le SMIC ou parfois qui sont au minima sociaux et les gens qui sont classe moyenne qui gagnent 2-3 000 euros. Ce qu'il faut compter, c'est le reste à vivre de chacun. Oui. En fait, parfois, il y a le même reste à vivre pour quelqu'un qui gagne 3 000 euros que pour quelqu'un qui gagne 1 500 euros.
Mais ça, c'est pas normal.
Pourquoi ? Oui, c'est pas normal. Ça veut dire que parfois, il y a des dégrèvements, par exemple la cantine, la crèche, les centres aérés, le sport, etc. Oui. Pour quelqu'un qui gagne 1 200 euros, tout ça est en prestation sociale. Pour celui qui gagne 2 500-3 000 ouais. au-dessus, il n'a rien. Donc finalement, tu regardes à la fin, le problème, c'est le restant à vivre qui est quasiment identique entre quelqu'un qui quasi ne travaille pas ou gagne peu et quelqu'un qui gagne 3 000 euros.
Mais
et
pour,
c'est là où ça pose
pouvoir,
un problème.
Pour pouvoir donner un restant à vivre plus important à ta classe moyenne, tu fais comment ?
Non, mais
tu fais comment si tu n'en distribues pas moins ?
Karine veut en discuter avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bienvenue Karine.
Je suis contente de vous avoir.
Bah, très heureux que vous soyez avec nous, Karine de la Drôme. Est-ce que, je vous pose la question franchement, et c'est pour ça que vous avez appelé, vous avez des crédits pour pouvoir vivre simplement au quotidien, oui ou non ?
Oui, oui. J'ai le crédit pour l'appart et après, à côté, j'ai des crédits conso que je regroupe, que la banque m'appelle de temps en temps pour regrouper les crédits. Et puis, on repart à chaque fois, je réemprunte un petit peu et c'est pour faire des virements à la fin du mois.
Vous n'avez jamais réussi à vous remettre d'aplomb, en quelque sorte ?
Non.
Mais il vous manque combien, en fait, chaque mois pour payer tout, en fait, pour être tranquille ? Il vous faudrait plus. Combien ?
Quelques centaines d'euros,
ouais. Combien ?
Quelques centaines d'euros, quand même.
Ouais.
Et du coup, cet argent, ça vous sert à quoi ? À faire les courses, c'est ça ?
Ah ben oui. Faire les courses, à payer les charges. Parce qu'il y a quelques années, j'ai acheté un appartement. Parce que je me suis dit que mes loyers partaient pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai acheté un petit appartement. Et donc, ça, plus les charges de copro. Et puis derrière, l'électricité. Mm-hmm. Mon hiver, je ne chauffe pas. Enfin, on est entre 17 et 18 sur certaines pièces, pas toutes les pièces. Je n'habite pas en ville. Donc, forcément, la voiture, j'en ai besoin.
Voilà. Vous avez des enfants ?
Non, j'ai pas d'enfant, c'est ça qui est fou. C'est que je suis fonctionnaire depuis 15 ans et j'ai pas d'enfant.
Et vous gagnez combien ?
Et vous êtes tout seul,
Vous payez des impôts ?
Oui, je paye des impôts, bien sûr. Ouais.
Donc plein pot parce que vous êtes célibataire.
C'est ça.
Donc vous avez un salaire correct, mais en fait, vous ne vous en sortez pas, quoi, tout simplement.
C'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, il n'y a pas de dépenses de 300 euros de vêtements.
Le restant à vivre, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous reste, Karine,
Le restant à vivre, c'est qu'il en manque. Il manque quelques centaines d'euros chaque mois.
Non, mais c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre salaire est en deçà...
Si je fais le calcul, il me reste de 300 euros.
Donc, charge. Une fois que vous avez payé toutes vos factures, il vous reste 200-300 euros.
Pour vivre par mois.
Et puis, du coup, c'est les courses, quoi.
Oui, c'est ce que je dis. Donc, il vous reste 200-300 euros pour vivre.
Pour faire des courses. Pour...
Ouais, donc c'est pas assez.
Et puis, je ne pars pas en week-end, je ne pars pas en vacances. Tout ce qui est électroménager, c'est des vieux trucs que j'ai depuis des années. Il n'y a pas de luxe, en fait.
Veut dire que s'il y a un incident, entre autres, sur l'électroménager, vous êtes obligé de passer par le crédit à la consommation.
Ah oui, je suis foutu. La voiture, elle lâche, je suis foutu.
Est-ce qu'il y a des perspectives d'augmentation de revenus ?
Ah vous savez qu'à l'hôpital, non.
Oui, c'est ça.
Ça fait 15 ans que je suis secrétaire à l'hôpital. Contrairement à ce qu'on dit, on bosse comme des dingues. Et en fait, 1007 au bout de 15 ans.
1007 au bout de 15 ans, Mais de toute façon, avec 1007, vous vivez où ? Dans quelle ville ?
À côté de Romans-sur-Isère.
D'accord. Mais avec 1007,
donc, je
ne
suis
pas
dans les coins les plus riches.
Vous n'êtes pas dans l'immobilier hyper cher. Vous
Karine,
êtes pas...
Karine, justement, votre exemple, on voit, et on le sait là, en étant au 32-16, il est multiplié par des milliers, ma chère Karine. Restez avec nous, Karine, parce qu'on a Alexandre qui vient d'arriver, qui nous appelle de la Manche. Bonjour, Alexandre.
Bonjour à vous, les VG.
Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous faites partie de ceux qui... doivent prendre un crédit à la consommation pour arriver à boucler les fins de mois, Alexandre ?
Alors, je ne fais plus ça, je l'ai fait pendant très longtemps, mais maintenant, la seule solution que j'ai pour pouvoir subvenir et survivre avec mes trois enfants, et ainsi que ma compagne aussi. C'est tout simplement, en ce qui me concerne moi, de ne plus manger le matin et le midi. Je ne fais qu'un seul repas la journée.
Ah bon ?
Je n'ai plus le choix, en fait. Bah non, j'ai plus le choix, parce que sinon, je me retrouve avec un découvert d'environ au moins 350 euros, avec des agios et tout un tas de trucs à payer derrière. Mmh. Et je suis dans un logement, j'ai envie de dire H&M, et je travaille en 5-8, donc je fais deux jours matin, deux jours après-midi, deux jours de nuit. Je vois pas spécialement beaucoup mes enfants non plus pour ça.
Votre compagne travaille ?
D'autre solution, en fait. Comment ?
Votre compagne travaille ?
Non, ma compagne ne travaille pas parce qu'en plus notre enfant a été diagnostiqué autiste et ma femme n'a pas eu d'autre choix que de se mettre en arrêt un an
pour s'en occuper,
pour faire les dossiers pour qu'il ait une ATM et tout ça à l'école.
Donc vous avez combien d'enfants, vous avez dit, Alexandre?
Trois enfants.
Alexandre, à la fin du mois, toute charge payée, il vous reste combien à vivre?
Alors si je mange pas, bah du coup il me reste un peu plus long sur le compte, mais si je me mets moi à manger mes repas pour mes gamelles le midi et tout ça avec mes postes, il doit me rester à tout payer 150 balles par mois.
Quand vous dites je mange pas, mais comment vous tenez au travail sans manger à midi ni le matin?
Vous faites comment dirais-je, vous remplissez le ventre de liquide, quoi, vous buvez de l'eau, vous buvez des potages, vous buvez des trucs comme ça. Vous avez pas tellement le choix, en fait.
Mais Alexandre.
Alexandre,
aujourd'hui, vous avez beaucoup de crédits aussi sur le dos, beaucoup de dépenses contraintes. C'est pour ça que vous êtes serré, outre le fait que votre... Dites-moi.
J'ai voiture, j'ai course, j'ai forcément tout ce qui est lié aux assurances, tout ce qui est lié, on va dire, à mon loyer, là, qui est d'environ 500 à 600 euros par mois.
L'énergie aussi,
j'ai l'énergie, tous ces trucs-là. Donc moi, à un moment donné, là, tout à l'heure, j'écoutais dans l'émission, le gouvernement, ils peuvent en faire des choses. Hein, ils ont les leviers pour pouvoir actionner et faire quelque chose. Parce que moi, je leur demande pas un chèque. Hein. Moi, je veux juste qu'ils me rendent du pouvoir d'achat, qu'ils arrêtent de se goinfrer sur mon dos, en fait.
C'est-à-dire pouvoir simplement un chèque d'aide, quoi. Vivre de votre travail, ce qui serait
Vous payez
serait
des impôts, Alexandre ?
Non, j'en paye pas, pour le coup, vu que j'ai trois enfants à charge et tout ça. Donc,
et vous avez 3 500 euros à deux ?
Vous payez pas l'impôt sur le revenu.
On est environ à 3 500 euros à deux, ouais.
Avec loyer ou crédit à rembourser.
Non, il est en HLM.
Oui, mais les dépenses contraintes du quotidien pour tous les enfants.
Je reviens sur le repas. Moi, ce qui me choque, c'est que vous ne mangez pas à midi.
C'est ça qui est terrible. C'est que la seule variable d'ajustement, il nous le dit bien, Alexandre, c'est la bouffe, quoi.
Mais vous pouvez, même en faisant votre gamelle, en quelque sorte, à la maison.
Non.
Il n'y a pas de cantine non plus là au boulot.
Si vous voulez, même la cantine, c'est-à-dire que moi, la cantine, à la limite, il y a un restaurant qui ouvre effectivement à mon travail, parce que j'ai cette chance-là de travailler dans une grande boîte. Donc, il y a effectivement des restaurants, mais c'est pas pour autant que ça va me coûter de l'argent, si vous voulez.
Si vous cuisinez le soir, comme faisaient nos parents ouvriers à l'époque,
que beaucoup de gens font,
même des cadres, il y en a qui cuisinent, et puis le lendemain, midi, ils emmènent leur gamelle à boire.
Exactement ce que je vous ai dit. La seule variable pour que j'arrive à survivre dans le mois, c'est que moi, je ne mange pas.
C'est ce qu'il fait.
C'est-à-dire que j'ai déjà essayé tous les trucs avant.
Tu fais la cuisine le soir.
Mais je ne mange pas, je n'ai plus d'autre choix. Mais le problème, c'est qu'on arrive dans ce monde-là. On y est là, on y est. Parce que quand il y a des gens qui ont dit qu'à un moment donné, des gens n'arriveront plus à manger, des gens n'arriveront plus à faire les fins de mois, et la seule variable d'ajustement, ce sera que les parents se mettent limite à ne plus bouffer qu'un quignon de pain ou un morceau de patate pour que les enfants puissent survivre, on y est. Je ne suis pas le seul Français à le faire.
Alexandre, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as une famille comme ça, où tu as trois enfants...
Après Karine, après vous Alexandre, c'est Stéphane qui veut évoquer aussi son cas. Il est dans la Nièvre, de la Drôme à la Manche. On va aller dans la Nièvre avec donc Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous avez entendu là, et je mets des guillemets, détresse aussi d'Alexandre, jusqu'où il doit en arriver. Karine qui est seule et qui ne s'en sort pas. Et vous, Stéphane, est-ce que vous devez prendre des crédits pour vous en sortir ?
La détresse, ce serait bien grand mot, mais c'est vrai que ça arrive assez régulièrement de devoir prendre un petit crédit à la conso pour pouvoir combler parce que la banque appelle, parce qu'elle vous dit et attention, vous êtes un peu dans le rouge, donc il faut faire quelque chose. Donc à part vendre un rein ou faire un crédit conso que les banques oriente vers les organismes type CTLM, Cofidis et compagnie, quoi. C'est un comble, hein. On ne peut même pas s'arranger avec la banque pour faire, voir avec sa propre banque pour faire un petit crédit conso ou quoi que ce soit. Non, ils vous renvoient vers ces organismes-là. Donc, avec des
Il vous manque combien par mois pour être tranquille?
Bah là, on est un peu plus de 4500 à 2. Ouais. On a 3 enfants donc, qui sont très grands. Donc, y en a encore 2 qui sont étudiants. Donc, il faut. Ouais. Faut subvenir.
C'est un coup, ouais.
Comme ils sont plus grands, il y a les impôts, il n'y a plus de bourse, il n'y a plus rien, quoi. Donc, il faut tirer derrière.
Ah là, ça coûte, par contre.
Quelles sont les dépenses les plus importantes pour vous, Stéphane, en fait?
Logement.
Ça va être entre la voiture et la maison, et puis ensuite, il y a tout ce qui est énergie.
Ça a explosé ces dernières années.
Tout ce qui est chauffage, électricité et puis après transport, puisque quand il faut aller au boulot et se payer une 60aine de kilomètres par jour, forcément ça peut coûter, hein.
Ouais.
Et c'est incompressible avec le carburant qui augmente les veilles de week-end ou les veilles de jours fériés, hein. Vous pourrez regarder ça, c'est assez amusant.
Et j'ai une question. Oui. On a fait le sujet au GG. Mais il semblerait que les Français, nous soyons les champions de l'épargne. Non, mais c'est vrai, hein, non, mais c'est une vraie question.
Est-ce que vous avez de l'argent de côté?
Non, les Français sont champions de l'épargne, et on l'a dit, toutes classes sociales confondues, voire même les classes moyennes et les classes les plus précaires. Mais il y a beaucoup d'épargne. Donc, j'arrive pas à faire la corrélation entre le fait qu'on soit les champions d'épargne et que les gens ont quand même beaucoup d'épargne.
Et les champions de la crédit à la consommation.
Et les champions de crédit à la consommation. Ouais. Je comprends pas le.
C'est pas les mêmes personnes. En même temps.
Non, j'aimerais bien pouvoir épargner, mais c'est pas possible.
Non, mais je parle pas de vous, mais c'est une vraie question.
Entre épargner et puis aider mes enfants ou sacrifier pour mes enfants.
Oui, mais tu vois, Zora, c'est un cercle vicieux. Pourquoi les Français épargnent? Pourquoi les Français épargnent? Parce que les Français n'ont pas confiance.
Oui.
N'ont pas confiance au système de retraite. Ils sont persuadés que de toute manière, ils n'auront pas une bonne retraite. Ils n'ont pas confiance dans la façon dont l'État gère ses impôts et charges, puisque les impôts ne cessent d'augmenter, même si on nous explique que ça va baisser. Les Français n'ont pas confiance en l'avenir. Moi, pour moi, l'épargne, ça montre bien qu'il y a un souci.
Merci Stéphane de ce. témoignage.
On ne peut pas leur donner tort.
Et ça fait réfléchir sur l'état de notre société, de la classe moyenne, comme vous le disiez aujourd'hui en France. Merci à vous d'avoir témoigné en toute franchise, en toute sincérité.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.